Cette émission est réalisée par des personnes privées de liberté dans le cadre d'ateliers d'éducation populaire organisés à la prison de Harun. Les propos exprimés dans ce contenu audio sont uniquement des opinions personnelles. Elles ne reflètent pas le point de vue d'un tiers et a fortiori des autorités carcérales ou des membres du SPF Justice. De plus, les informations factuelles énoncées ne font pas l'objet d'une vérification.
Le cri.
Une émission.
Des personnes
privées de liberté.
Chères auditrices, bienvenue. Chers auditeurs, vous aussi, vous êtes les bienvenus sur notre émission Le Cri. Comme vous le savez déjà, cette émission est enregistrée à la prison de Harun par des détenus. Qui dans chaque émission, on essaye de parler, d'analyser, même de débattre sur différents sujets qui nous touchent autant que détenus. Avant de passer au sujet d'aujourd'hui, je veux transmettre les remerciements à toute l'équipe de Radio Panique et ses auditeurs, Radio Air Libre et Radio Campus. Merci à vous et merci à vos auditeurs. Les auditeurs qui souhaitent s'adresser à nous, vous avez l'adresse mail lecri@xara.be. Pour les auditeurs en intramuros qui écoutent notre émission via Radio Harun, vous pouvez toujours nous écrire via la plateforme Telio, chercher activité externe et taper sur la rubrique Studio Radio Harun. Donc voilà. J'ai à côté de moi ici, aux amis habitués, Serhat, Kokaz, Rutz, Samir, Coucou. Lassis, Mario et mon ami Relka. Bonjour les amis.
Salut.
Bonjour.
Buenos días, señora.
Buenos días. Mario, on parle de quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va parler de la famille, l'importance de la famille, surtout en milieu carcéral, quoi. Donc voilà.
Ok, donc un petit peu la relation entre tout ce qui est la relation famille et prison, quoi. Donc c'est un sujet, oui, c'est un sujet qui nous touche à tous. On veut débattre ici et comprendre aussi le vécu de chacun d'entre nous, comment vivent nos proches avec nos absences, quel est l'impact sur eux et bien sûr sur nous-mêmes, quels moyens de communication est offert à nous dans la prison, notamment les visites, les appels téléphoniques ou les visions, on va dire. Donc voilà, j'aimerais bien, Serhat, par exemple, oui. Connaître ton vécu, savoir c'est quoi l'impact pour toi dès que tu arrives en prison, cette séparation de la famille, comment eux ils le vivent, comment toi tu le ressens, tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, en fait, pour moi, c'était un petit peu différent, hein, vu que moi, quand je suis rentré ici, j'étais très très marginalisé de la société et aussi de mes relations avec ma famille. On se voyait, mais on n'avait plus ce lien qu'on peut avoir avec sa famille. On était un peu et chacun de son côté. Et l'incarcération, ça m'a fait, et pour moi aussi, et aussi pour ma famille, et ça nous a fait. Ça nous a fait une prise de conscience quelque part pour.
Kokaz, est-ce que par exemple l'incarcération change la relation avec la famille? Est-ce que à partir de l'incarcération, il y a un changement lié à la relation entre le détenu et sa famille? Il y a quelque chose qui déclenche, il y a quelque chose qui change?
Bien sûr, ça change. Ça, c'est tout le monde en voit, tout le monde en sait ça. Certains, ils perdent des femmes, certains, ils perdent des enfants. Il n'y a pas d'aucune association, quelque chose qui vraiment il résoudre des problèmes des familiales à la prison. Ça n'existait pas. Même si en prison, on parle qu'il y en a de certaines choses pour les familiales, aux parents des enfants, mais tout ça. En réalité, quand on arrive à certains points, ils sont mettre les mains, ils disent, ils sont pas grand chose à faire, quoi. Il doit être quelque chose, un système qui vraiment il doit aider à résoudre des problèmes familiaux pour avoir des visites correctes, pour avoir des relations correctes, en tout cas avec des enfants. Parce que notre des enfants, ils sont vivants sans père. Ils sont manque d'éducation en plus dans la, une époque... dans une génération qui, vous savez bien, aujourd'hui, ce n'est pas très facile d'extérieur. Et aujourd'hui, je veux dire quelque chose. Quand j'ai vu une émission sur TV, que des gens, des enfants, ils sont brûlés, les gens, des enfants, ça m'a fait de peur. J'ai des enfants, 14, 15 ans, 13 ans, ça me fait de peur. Quand je vois des harcèlements de téléphone et tout ça, le père, il doit être toujours à côté des enfants.
Par exemple, dans les événements... on va dire important, des décès, des naissances, des anniversaires. Comment ça se passe en prison?
Ben oui, j'étais une personne quand même entourée de la famille. S'il y avait des fêtes, on faisait toujours la fête, les petits cadeaux. J'ai aussi maintenant des petits-enfants. Mais maintenant, une fois qu'on a retiré la prise, hein, comme on dit, la manque d'absence est devenue comme une vague tsunami au-dessus de toi. Je veux dire, par exemple, donc chez moi, les petits-enfants, les enfants, ils sont tous avec leur anniversaire fin de l'année. Et bon, ça commence doucement avec la petite et après le grand, mon grand-fils. Et quand tu regardes la télé, par exemple, ça commence hein, tout doucement. Tu vois les publicités de Noël, nourriture Noël, les films Noël, et hop, on est parti. Et alors, il y a mon épouse qui dit, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, ben, écoute, le siège, il va être vite, mais faites-le quand même. Ils l'ont fait entre eux, mais ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Et aussi que les petits-enfants, bon, ils disent où est-ce qu'il est, au pire où est-ce qu'il est. Bon, c'est difficile à expliquer aux petits-enfants. Donc, ça m'a cassé quand même ce moment-là. Donc, voilà.
Merci pour ton témoignage. Et je pense qu'il y en aura aussi d'autres qui ont le même vécu ou les mêmes ressentis dans des dates pareilles.
Bonsoir à tous. La famille, ouais, c'est très important. Moi, quand je suis venu ici, c'était un peu l'inconnu pour moi. C'est la première fois, donc on est privé de tout contact. Enfin, moi, j'ai été privé vraiment de tout. Et dehors, à l'extérieur, la famille faisait énormément pour moi. Énormément. S'ils n'étaient pas là, franchement, je pense que j'aurais sauté du troisième, là. Je pense que j'aurais sauté, ouais. Parce que ça m'avait traversé l'esprit, je dirais. Mais quand j'ai vu le soutien, ça a été quelque chose de fort, très fort.
Là, j'aimerais bien que tu approfondis un petit peu, tu développes, parce que tu viens de parler un peu du soutien familial. Qu'est-ce qu'il suppose, le soutien familial pour un détenu?
Ben c'est le soutien familial, c'est montrer qu'ils sont là, qui t'encourage, qui te prépare même déjà la sortie. Moi, depuis que je suis là, on parle déjà de la sortie alors que je venais de rentrer. On me trouve des projets, en fait. On m'encourage. Donc moi, je suis ici et je ne peux qu'attendre de sortir. Donc il y a le soutien financier. J'ai la chance d'avoir beaucoup de frères et de sœurs. Ce qui fait que si je demande un petit 50 par là, j'arrive à une petite somme. Et après, l'argent, ouais, c'est bien. Mais après, quant à l'argent, on rate beaucoup de choses. Voilà, comme aujourd'hui, j'ai l'anniversaire de mon fils. Il vient d'avoir 20 ans. Bon anniversaire, Faisal, si tu m'entends. Enfin, si tu vas m'entendre, peut-être. Et voilà, quoi.
En fait, il y a des besoins financiers, mais aussi des besoins affectifs, quoi.
Surtout affectifs, après. À un moment donné, tu dis... Allez, quand t'as pas l'argent, tu penses que c'est l'argent. Mais en fait, une fois que tu te donnes de l'argent, tu t'en fous de ça. Tu dis, je veux mieux, je sais pas. C'est plus vraiment l'argent qui est important. C'est leur présence, savoir qui t'attend dehors. Moi, c'est plutôt ça qui me fait peur. C'est de voir s'ils vont pas me lâcher. Parce que on reste, mais on reste très longtemps. Et après, à un moment donné, on se dit, quoi... Il y a toujours la petite peur, moi, encore quand je regarde dans le compte, si je vois un petit billet de 50 qui vient arriver, je me dis, ah, ça va, il a pensé à moi et tout, ça, il ne me laisse pas tomber. Moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Ouais, c'est facile de tenir les 6 mois, mais après, ouais. C'est une année, après, c'est la deuxième
année, après, tu vois, le type, il t'envoie 50 balles, il t'envoie 10 euros. Et puis après, il y en a, ils t'envoient plus rien.
On touche plafond.
Ouais, pas, il te dit j'ai pas. Et puis t'entends, il est parti en Turquie. Tu te dis un petit billet, quoi. Il aurait pas fait un petit jet ski, c'est tout, tu vois. Et voilà. Ouais. Il y a plein de trucs, ouais. Mais ce qu'il y a, on pense, on remue, on se rappelle. Moi, ce qu'il y a, je me rappelle beaucoup, beaucoup du passé. Ouais. Je remine beaucoup le passé.
On va y arriver aussi à la partie la culpabilité. Donc, d'une manière ou une autre aussi, on se sent coupable des fois par rapport à nos familles. Mario, j'aimerais bien, je ne sais pas si tu te reconnais dans ce qu'il vient de dire, ou tu as d'autres choses à ajouter.
Oui, exactement. Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs, auditrices. Ce que je voulais dire, c'est... Exactement, l'importance de la famille en prison, en fait, c'est pour moi le plus important, c'est de ne pas se sentir seul, de dire que voilà, il y a des gens qui sont avec moi. Parce que comme il a dit, l'importance financière, ouais, c'est important. Mais savoir que tu as des gens qui sont là, que tu as sorti, qu'il y aura des gens avec toi, ou que tu as ta femme qui te suit, qui te supporte, ou même des amis. Des fois, la famille, c'est pas que seulement ceux qui sont nés avec toi, d'une même père ou même mère, ou que ce soit ta mère ou ta soeur. Des fois, c'est des amis qui sont présents plus que ta propre famille biologique. Mais l'importance de la famille en prison, c'est de ne pas te sentir seul avant tout. Ouais. Et avec tous les soutiens qui viennent par après, moral, ainsi de suite. La détention se passe différemment quand tu as du soutien ou quand tu as des gens avec toi et que quand tu es seul, c'est pas pareil, quoi. Pas la même chose.
Justement, c'est à quoi que je voulais rebondir avec Relka. Est-ce que c'est la même chose, ce ressenti, par exemple, qu'il vient de décrire par rapport à quelqu'un qui est étranger, qui n'a pas forcément de la famille près de lui ici. Comment ça se passe aussi? Parce qu'il y a quand même un pourcentage considérable de détenus qui n'ont pas de visite. Donc si déjà on a de la famille, on souffre pour la famille, pour le transport, pour le déplacement et tout. Comment ça se passe pour ce détenu aussi qui n'a pas de famille, n'a pas de visite? Et peut-être il n'a même pas ce soutien financier, par exemple, ni affectif, bien sûr.
En vrai, j'ai pas vraiment pensé à la situation où j'ai pas ce manque. Je suis quitté très jeune de ma famille. Bon, je me suis éloigné très vite de ma famille, étant depuis au pays. Bon, j'ai appris à me débrouiller tout seul, à vivre vraiment, dépendant de moi-même. Bon, j'ai jamais un jour imaginé que il est comme ça, j'aurais besoin de la famille ou de son soutien. Ou... C'est ici que j'entends des gens, ils se plaignent, nanani. En fait, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas mon cas. Bon, surtout, je veux aussi me mettre à leur place et essayer de comprendre aussi. Mais d'un autre point de vue, en vrai, je ne vais jamais sciencer.
Excuse-moi un peu. En fait, revenir sur te couper et revenir un peu sur ce que tu dis. En fait, justement, la situation que toi, tu as toujours vécue, ouais. Comme tu dis, depuis toujours, que tu as toujours vécu depuis toujours, que tu as appris à te débrouiller tout seul. Mais maintenant, aujourd'hui, que tu es en prison ici, est-ce que tu vois aussi ici en prison que dans cet endroit, parce que là, tu étais en liberté, mais ici enfermé, est-ce que tu ne trouves pas que non, si tu avais ta famille ou si tu avais des gens qui t'aidaient ou qui te tendaient la main, peut-être, ça allait être différemment, ça va être plus facile que toi parce que là, t'es pas dehors, mais en prison ici. Est-ce que la famille, vraiment, c'est un peu important ou avoir des gens qui sont avec toi, c'est important ou t'arrives quand
non,
même?
Mais je suis conscient que c'est la base parce que la famille, c'est un truc que même si t'es pas avec eux, et même s'ils viennent pas te rendre visite, si t'as le sens de la famille, du moral, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, en vrai, je sais bien que si la situation était comme les autres pour moi, j'aurais plus d'avantages, je serais plus... Écoute, bon, en fait, soutien émotionnel, c'est très important. Et c'est la famille seule qui donne ce genre de soutien. Les amis, les connaissances, il est bien vrai, ils vont essayer. Ils vont se mettre à ta place, mais ils ne vont pas changer ce que la famille peut changer. Parce que quand la famille est avec toi, au fait, tu te sens...
Tu te sens épaulé.
Même pas épaulé.
Tu te sens pas seul.
Tu tu te sens invincible. Tu as la force d'aller jusqu'au bout. Tu vois. Mais quand tu es loin de cette personne, des gens comme ça, moi, je m'étais déjà préparé psychologiquement à mon cas. À mon cas, comme je suis quitté jeune, je savais que d'où j'allais, j'ai aucun lien là-bas. Il est bien vrai, j'ai la sœur de mon frère ici, la sœur de la grande sœur de mon papa là-bas, mais ce sont des gens que
fait, trop en contact avec.
Je suis en contact.
Ok, ok. Là, si j'aimerais bien te poser la question pour fermer ce chapitre de ce soutien, surtout financier, qu'on venait de parler ça fait un instant. Mmh. Par rapport au salaire en prison, par exemple, et au prix désorbitant de la cantine, de la téléphonie et tout ça, est-ce qu'on peut survivre en prison sans l'aide financière de la famille ?
Écoute, je vais te donner mon avis par rapport à ça. Pour moi, c'est un défi, c'est un challenge, en fait, parce que si la famille n'est pas là pour t'aider, en fait, frérot, c'est toi et toi, hein, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, il y a des gens ici, par exemple, qui n'ont, comme Mata, comme le frérot ici disait, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de mandat, la famille est hyper loin. Pour communiquer avec la famille, c'est des vidéosurveillances. Il y en a même, ils n'ont même pas, des contacts et tout pour avoir l'adresse email de leur famille qui est dans un autre pays. Et pour avoir vu d'autres détenus dans cette situation, je pense que vraiment, c'est vraiment un défi de pouvoir vivre sa détention sans l'aide de la famille. Pour moi,
je comprends alors que le salaire ou les gratifications, comme ici on les appelle, n'arrivent pas, n'atteint pas les besoins. Quoi.
Les gratifications, c'est en fait, tu fais quoi ? T'achètes, t'as 15 euros, donc il faut savoir que tu as 15 euros par mois, je pense.
Non, je parle même d'un servant qui travaille, il gagne 100, 120 euros par mois.
Ah ouais, non, c'est...
Je parle pas que de celui qui reçoit une aide sociale, je parle d'un servant qui travaille tous les jours et il reçoit 120 euros par mois.
Tu fais rien avec.
Tu sais rien,
voilà, sais rien faire avec.
120 euros par mois, c'est quoi ? C'est 50 euros de crédit, 20 euros pour la télé, 20 euros, tu vas faire le mois avec, donc tu es déjà à 70 euros. Il te reste 130 euros, on va dire. La nourriture, la viande, les épices, les boissons, tu en as déjà pour 60 euros facile. Et voilà,
par semaine, par semaine.
Donc voilà, ça part hyper vite, hein. Vous-même, vous faites le calcul. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Caucas, vous voulez ajouter quelque
merci
chose ?
Merci, Faouzi. J'avais une très, très importante question qu'il y a ici en prison, à Rennes, uniquement en Rennes. Financement, déjà, je vais dire comme ça. Ici, aide sociale, c'est les 15 euros. Si on parle de salaire de servant, il y en a quoi ? Un, 12 servants. Télé, chaque mois, ça coûte minimum 20 euros. Déjà, une bouteille d'huile, c'est minimum 10 euros, 9,50 euros. Et on est parlé à tantôt des questions, il est télé familial. Combien ça coûte de téléphone ? Ce n'est pas tout le monde qui habite en Belgique. Certains habitent très loin. Il y en a des minutes qui coûtent certains de plusieurs euros. Hein. Et comment on doit charger le téléphone, comment on doit nourrir. Ici, dans cette prison, j'ai vu aujourd'hui même certaines personnes qui travaillent ici d'administration. Ils disent que c'est les prisons impossibles de travailler. Impossible. Il n'y a pas d'aucune organisation. Normalement, si on existe ici, les détenus... seulement sur les aides familiales. Juste pour les aides familiales. Travailleurs, déjà, on ne touche pas comme des autres prisons. Ce n'est pas le même salaire. Le téléphone, il est très, très monté, les prix. Il est très fort.
Il monte tous les ans.
Nourriture, on n'est pas accès sur le catalogue cantine à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et tout, si on a les catalogues ici, ils sont triplés, doublés.
Donc, pour résumer, on est obligé...
Il faut au moins 300 euros, comme ouais. Ça, 250 et, ouais. À 300
voyez,
euros.
Pour ça, on attend tous les jours. Les détenus, il est énervé, détenus, il est agressé. Détenus. Bien sûr, on est agressif. On est agressif, on est privé de tout.
Ouais, ouais, ouais. J'aimerais bien passer au sujet de les visites, par exemple. Ces familles qui prennent un peu le dérangement, on va dire, de se déplacer, de se dépenser de l'argent. Peut-être il y a de la famille qui habite un peu plus loin. Donc comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils se sont à l'aise? Est-ce qu'ils sont traités un petit peu toujours avec du mépris, avec un peu d'humiliation? Avec comment ça se passe tout ce côté visite? Et même si tu sais nous expliquer un petit peu toutes les modalités de visite, il y a de la visite de visite à table, visite carreau, visite VHS, que c'est visite
hors surveillance. C'est ce que j'allais un peu. J'allais un peu revenir dessus, donc on va d'abord expliquer un peu le déroulement de visite, comment ça se passe. Donc il y a plusieurs sortes de visites. Tu as d'abord des visites ordinaires, visites à table, et puis tu as les VHS, visites hors surveillance, et tu as les visites familiales. Donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? Et aussi quand tu es puni, tu as visite à carreau. Quand tu es puni, donc ça veut dire quand tu as un rapport, tu es en IES, et qui t'ont interdit toutes les activités en commun. Donc voilà, il y a quatre sortes de visites, quoi. Donc je commencerai par la visite à table. La visite à table, c'est une heure. Donc c'est une heure. Et visite hors surveillance, la VHS, c'est deux heures, non? Deux heures, je crois. Et visite familiale, c'est trois heures, c'est ça? Visite familiale, c'est trois heures, donc. Qu'est-ce que c'est une VHS? Comme on dit, VHS et visite hors surveillance, c'est plus des visites intimes, toi et ta femme. Un moment où vous pouvez passer ensemble, voilà, quoi, pendant deux heures. Et VF, c'est visite familiale, où tout le monde peut venir. Je crois que c'est maximum quatre personnes, je crois, qui peuvent venir. Donc vous êtes dans une petite salle. Dans le VHS, c'est comme une chambre d'hôtel. Avec une toilette, douche, un lit, ainsi de suite. Donc voilà, quoi. Et VHS, VF, c'est une salle aussi, pareil, mais avec juste un fauteuil. Avec juste un fauteuil, quoi.
Ça, c'est pour la présence des enfants.
Visite familiale, voilà, visite familiale. Et quand vous êtes puni, c'est visite à carreau, visite derrière les carreaux. Donc comment ça se passe? Maintenant, ici, la procédure pour prendre visite, il faut réserver. Il faut appeler. Et appeler, puis dire, voilà, je vais venir tel jour. Il faut appeler 24 heures à l'avant, je crois. Et puis tu réserves, voilà, tu dis, je vais venir tel jour. Par exemple, je vais venir le mercredi, comme demain, mercredi, à la visite de midi 45 ou midi et demi quand ça commence. Mais la personne doit arriver une demi-heure avant l'heure de la visite, qui doit s'inscrire. Et à partir de là, il va monter, vous allez avoir visite une heure après, et puis voilà, c'est fini, quoi. Donc, c'est ce que je voulais te dire, mais c'est que j'allais te dire, si nos familles sont bien traitées, du tout, nos familles ne sont pas bien traitées. En fait, ils ont l'impression, d'après le ressenti qu'ils ont et les retours que nous, on a, c'est comme si eux aussi, ils étaient prisonniers à notre place, quoi. Comme nous, on est justiciables, oui, nous, on est là, mais eux, quand ils viennent nous rendre visite, ils sont traités quasi de la même manière aussi, comme s'ils avaient fait quelque chose. Les fouilles, les manques de respect, les manques soupçonner tout le temps, voilà, le manque de respect, ainsi de suite, donc des incidents.
Je sais confirmer ce que Mario a dit. Ma famille a vécu la même chose. Déjà, ça donne un stress parce qu'ils maintenant doivent réserver, hein, pour venir. Et avant, c'était pas le cas. Donc maintenant, ça doit être calculé. Déjà, chez moi, ils viennent par un trafic très difficile. Donc quand ils viennent, donc ça doit être très bien calculé. Alors c'est déjà arrivé qu'ils sont venus une minute ou quelques minutes en retard. Donc normalement ils pouvaient, je veux dire, partir. Hein, c'était supprimé. Donc eux, ils ont insisté parce qu'ils n'étaient pas contents avec, et ils ont pu passer une heure plus tard. Mais moi de mon côté, moi je savais pas. Moi j'attendais, quoi. J'étais habillé, quoi, pour y aller. Mais il y avait un stress, donc quand j'ai vu ma famille, ils étaient déjà très, très stressés. Et le top, c'est que maintenant, tout le monde doit, donc tous les détenus doivent sortir d'abord. Donc tout le monde doit, donc la famille doit rester assis, comme dans une classe de l'école. Et ça commence déjà, tout le monde doit rester ici, on ne bouge pas, voilà, vraiment comme un instituteur. Et ils n'aiment pas ça. Et là, je confirme à Marius ce qu'il a dit, qu'ils se sentent aussi comme des prisonniers, quoi.
Voilà. Et c'est ça.
Et la prennent pour des enfants, oui.
Surtout ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça, nous ici, je crois que tout le monde va être d'accord avec nous, je crois que tout prisonnier ou tout être humain n'aime pas qu'on s'en prenne à sa famille. Et surtout que comme on est ici, ils ne comprennent pas qu'il y a certaines tensions, il y a beaucoup de tensions qui se font. Pourquoi ? Parce qu'il manque du respect à nos familles. Et après, ils s'étonnent que voilà, on perd le contrôle. Et puis voilà, il y a des altercations qui se passent avec eux. Justement, c'est ça. Moi, si tu traites ma famille mal, quand je viens à la visite déjà, je vois ça. Et souvent, nos familles même, ils évitent de nous parler, de nous raconter ce qu'ils sont en train de vivre en bas, parce qu'ils veulent pas qu'on réagisse mal, et ils savent que c'est nous qui allons rester ici avec eux. Donc vous voyez, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça.
Ok, les amis, maintenant on va passer, malheureusement, notre collègue, notre ami d'ici, on lui envoie tous nos encouragements et nos salutations. Notre ami Michael, qui se trouve en IES, que c'est une punition.
Meet. Voilà. MC, force à toi.
Donc, c'est une mesure de... Qu'est-ce qui signifie IES exactement ?
IES,
Isolation.
Je ne sais pas, mais ça veut dire qu'il est privé de toute activité.
Mais c'est une isolation.
Il est privé de toute activité.
Il est isolé, il ne peut pas sortir de sa cellule, donc il n'a pas su assister aujourd'hui à être parmi nous. Mais, on a un petit témoignage à lui enregistré qu'on va écouter tout de suite, les amis.
Big up, Mitch. Force à toi, frère.
Nous, je pense qu'il y a des gens ici sur la table, ça fait longtemps qu'ils purgent. T'as vu, quand je parle longtemps, je parle de minimum un an, deux ans, t'as vu. Il y a des gens, même, tu comprends ce que je veux dire, gros. Tu vois, il y a des gens qui craquent, il y a des gens qui craquent pas, il y en a, ils sont pas bien, il y en a, ils tombent en dépression, il y en a mentalement, même après 6 mois, il y en a, ils craquent déjà. T'es en prison. Tu sais ce que t'as fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars d'une logique où tu sais ce que t'as fait, même si tes proches, ils t'en veulent ou quoi, tu peux pas en vouloir à tes proches de t'en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Le seul truc que tu peux faire, c'est les rassurer. Leur dire que ça va aller, que ça va passer. C'est le seul truc que t'as à dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, je raconte plus mes journées à ma mère, puisque ça devient trop saoulant à un moment donné d'expliquer ce que tu fais en prison. Ça se voit sur son visage, ça va pas. Moi, j'ai que ma mère. Moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mon père, il est décédé quand j'étais petit. J'ai un petit frère qui est mort à sa naissance. Donc, le lien, il se déchire aussi de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que le seul enfant qu'elle a eu n'est pas présent. Tu vois, ok, le papa, il est parti quand il était petit, ça, ok. Il y a un enfant qui est parti, j'ai des tantes aussi qui sont parties et tout ça. Mais il y a le plus important qui n'est pas là, c'est moi. C'est ça que ma mère, elle me dit chaque fois à la visite. Elle me dit, moi, comme ça, tu sais, demain, je vais commencer à dormir dans ta chambre. La semaine d'après de la visite, elle revient, elle me dit, j'ai dormi pendant une semaine dans ta chambre, maintenant, je me sens mieux. Quand elle se sent pas bien, c'est l'endroit où elle... C'est son cocon, en vérité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Et au final, eux, ce qu'ils comprennent pas aussi, parce que nous, on sait qu'ils ont mal. Tu vois, mais eux, ce qu'ils comprennent pas aussi, c'est que ça nous fait mal. Je pense que je suis pas en tort. Je pense que j'ai raison dans ce que je dis. Parce que nous, on veut bien maintenant, par exemple, tu vas avoir mal, Samir. Moi, je sais que t'as mal. Mais est-ce que toi, tu sais que t'as mal? Est-ce qu'eux, à l'extérieur, ils savent que t'as mal? Non, ils savent pas. Ils savent pas ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que moi, quand j'arrive à la visite, moi, je pleure pas à la visite. Hein. Moi, j'arrive à la visite, je souris pendant une heure. Ouais, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je souris. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais montrer ce côté faible de moi-même à ma mère pour qu'elle rentre à la maison, elle commence à cogiter, à se dire « Ah, mon fils, il est pas bien et tout, ta-ta-ta-ta-ta-ta. » Au jour d'aujourd'hui, chaque jour où je reçois ma mère au téléphone, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que je lui montre ce côté heureux. C'est un humain, à partir du moment où l'humain a l'habitude avec quelque chose, il va vivre avec. Mais si l'humain n'a pas cette habitude, pourquoi beaucoup de mamans sont tristes au jour d'aujourd'hui quand ils viennent voir des gens à la visite? C'est parce qu'on leur montre qu'on est triste. Or que, déjà que t'es en prison, tu fais encore plus souffrir ta mère en montrant que t'es triste. Va pleurer en cellule. Pleure en cellule, mais pleure pas devant les gens. La personne qui t'a mise au monde, tu vas pleurer en disant « Ouais, mais maman, je me sens pas bien ».
C'est double
mais si
peine,
tu te sens pas
peine.
Bien, déjà double peine, déjà de 1 comme la Cécile l'a dit, mais de 2, pourquoi t'es venu en prison alors? Si c'est pour te plaindre comme ça, à un moment donné, regarde-toi dans le miroir et plains-toi devant le miroir, plains-toi à toi-même.
Mais te plains pas devant tes parents.
C'est
parce
un exercice que pas tout le monde le fait.
C'est pas tout le monde qui savent le faire. Malheureusement, et ça, c'est le problème qu'on a ici dans cette prison. C'est pas qu'il n'y a pas assez de psychologues. Il y a beaucoup de gens, ils voient Aaron de l'extérieur. Oh, ils sont bien. Les gens qui sont vraiment bêtes à snapper sur TikTok, airfryer, cafetière, des trucs comme ça, ils disent ouais, on est au max à Aaron. Viens passer une journée en cellule. Ouais, juste une minute. Ouais, 44 magistrats, ils ont passé que 5 jours. Hein. Ils n'ont pas passé 3 fois 365 jours, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans dans des cellules. Ouais, à Rennes, il y a une douche. Il y a quoi d'autre ? Par rapport à d'autres prisons. Dans d'autres prisons, il y a une toilette. T'as vu, j'ai fait l'antin. Il y a une toilette, c'est tout. Et la toilette, si tu ne mets pas une planche en bois, ton duo, il te voit en train de chier, il te voit en train de pisser. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens, ils ont fait forêt. Moi, j'ai entendu parler de forêt où ils chiaient dans les seaux. Et ils dorment avec dans leur cellule de temps en temps. Je pense, ah, j'ai raison. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Et ils doivent, comme, ils doivent aller le matin le vider. Et puis toute la journée, on refait rebelote. Donc, il y a un moment donné, ça, c'est pas que à cause de... Moi, je trouve que tout ça, c'est à cause de l'économie sociale. Mais ça, on en reparlera sur une autre émission. Mais au jour d'aujourd'hui, la famille, c'est ce qui nous reste. Tes cantines que tu fais, tu crois que t'es heureux ? Il y a des gens, ils font des 1000, 2000 euros, 3000 euros de cantine. Et il y a des gens de l'extérieur de leur cellule, quand ils les voient, ah, mais il est bien.
Alors que lui-même, il est pas.
Le type, il est bien. Le type, il se fait 3000 balles de cantine. Le type, tu rentres dans sa cellule, t'arrives même pas à rentrer dans sa cellule, tellement, ouais, tellement c'est un labyrinthe.
Ouais.
Mais quand tu rentres dans sa cellule et tu restes juste 5 minutes avec lui, est-ce que tu le vois rigoler ? Tu l'as vu sourire ? Ouais, le type, il est en train de se gratter. Il a un trou dans le crâne ici. Il est en train de se gratter tellement il est en stress. Il est en train de penser à ce qu'il y a dehors. Qu'est-ce qui se passe à ma famille ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort ? C'est bien quand t'es pas au téléphone, tu dois savoir ce que la personne elle fait dehors.
Sinon, tu
parce que si
films
tu sais pas,
tout,
voilà. Pourquoi beaucoup de gens ils disent ouais, faut pas avoir de femme, faut pas avoir de copine, tchic, tchac, 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 tchac. Pour certains anciens, leur femme c'est les mères de leurs enfants, des trucs comme ça. Nous pour la jeunesse, il y a certaines personnes, font pas confiance à leur copine à l'extérieur. Dès qu'ils rentrent en prison, ils la quittent. Comme ça, ils se prennent pas la tête. D'autres, ils se disent qu'ils voient quand même une relation dans la prison, mais au final, si tu sais le supporter, ok. Mais si tu ne sais pas le supporter, tu vas vite perdre la tête. Parce que quand tu es en prison, souvent, les gens ils vont dire « Ah, mais c'est l'humain qui tient par les couilles. C'est la justice qui tient par les couilles. » Et ça, c'est réel. Parce que si ta famille ne vient pas te voir, si ta famille ne t'assume pas, c'est qui va t'assumer ?
Vous écoutez.
Vous écoutez.
Vous écoutez.
Le cri.
Le cri. Cri.
Une émission
des personnes.
Des personnes privées de liberté.
Privées de liberté.
Merci beaucoup, Michael, pour ta franchise et ton partage. J'adore, tu sais très bien, ta maturité malgré ton âge et les mots que tu utilises, vraiment, ça part du cœur et ça arrive au cœur. Les amis, on va faire une petite pause. Donc, je vous propose une chanson en lien avec le sujet famille. C'est la chanson « Avant qu'elle parte » de Section d'Assaut. Go !
Insensé, insensible, tu l'aimais pourtant tu la fuis. Insensé, insensible, tu l'aimais pourtant tu la fuis.
Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, tes clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre deux, trois dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi.
Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'en privé, c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquent mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais je maudis ce jour où on t'enterre.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire.
Et même quand tout le monde est contre toi, sûr qu'elle aimerait juste entendre un maman je t'aime à la place des cris du daron qui menace de te jeter. Je suis sûr qu'elle craque au bout d'une semaine passée sans toi et que ton absence lui ferait plus mal qu'une chute du haut de son toit. Je suis sûr qu'elle aimerait que tu la prennes dans tes bras exactement comme elle le faisait durant tes 12 premiers mois. Je suis sûr que l'amour t'a rendu myope au lieu de le porter à ta mère, tu le portes à une idiote.
Des aérophones avec ta meuf afin de mieux vous rapprocher. Quand ta mère t'appelle, tu veux vite raccrocher.
Devant tes potes, tu lui tiens tête, tu veux lui donner des leçons. Mais t'oublies que cette tête, elle l'a tenue quand elle te donnait le sein.
Crois-moi sur parole, on peut remplacer des poumons, mais sûrement pas une daronne.
T'as habité en elle, t'as habité sous son toit. C'est la seule personne qui prie pour quitter ce monde avant toi.
Au commissariat pour elle, t'étais jamais coupable. Mais pour moi, tu l'es car t'es bronzée alors qu'elle est toute pâle.
À part elle, personne supporte ton égoïsme permanent. T'es pas le nombril du monde, mais t'es celui de ta maman.
Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Elle lui dire ce qu'elle représente pour toi avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire.
Je ne suis jamais parti, je n'ai jamais changé, si ce n'est ma voix et ma taille. Oh maman, c'est moi, je veux que tu valides ma fiancée. Réconforte-moi comme quand je tombais. Maman, où t'es passé? Oh regarde-moi.
Simplement tirer dans mes bras, dans mes bras. Serrer très fort, te dire je t'aime une dernière fois, repose en paix. Repose en paix. On nous t'a donné corps et âme, si j'ai plus d'encre, tant pis, je continuerai avec mes larmes. Arrête. Aujourd'hui maman n'est plus là, maman n'est plus là. Je suis tombé de haut mais je pourrais pas tomber plus bas. Poto joue pas l'enfant de la base, si t'en as une fais lui plaisir, dis-lui que tu l'aimes avant qu'elle parte. À tous ceux qui ont encore une mère, même si la mort n'arrête pas l'amour, dites-leur que vous les aimez avant qu'elles partent.
Les amis, un sujet aussi très, très important pendant l'incarcération dans cette relation avec la famille, c'est des tensions qui se créent forcément. Donc j'aimerais bien parler un petit peu de ces tensions, des fois par rapport peut-être à de l'égoïsme du détenu qui insiste à demander par exemple des aides financières, or que la famille ne peut pas, même de la distance avec les enfants et ce manque de repères parental peut créer des problèmes, voire de scolarité par exemple. Je ne sais pas si Mario, tu pourrais nous parler de tout ça.
Oui, je vais être un peu bref. Donc, de mon cas, en tout cas, quand tu entends parler de tension, c'est justement l'absence. L'absence que tu as quand tu as des responsabilités dans une famille, surtout quand tu es le chef de famille, tu as des enfants, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de tensions qui se créent. La femme se retrouve à accomplir certaines tâches que normalement, toi, tu devais faire. Donc, ton manque est là, le manque d'éducation sur les enfants. Et tout ça, ça déteint un peu sur tout le monde. Donc, voilà, il y a certaines tensions qui arrivent. Et puis, y a aussi, comme chez certains aussi, qui demandent beaucoup à leur famille. Voilà, il y a certains qui rentrent en prison, il n'a rien laissé dehors. Et c'est sa famille qui doit encore, déjà, la famille, ils ont mal. Qui n'étaient pas là, comme certains d'entre nous ici qui disent, question de honte avec le voisin ou quoi. Tu ne dis pas aux enfants, tu ne dis pas aux autres personnes. Mais de plus, tu n'as rien. Donc, ils doivent encore t'aider financièrement. Eux-mêmes, ils sont dehors et que la vie n'est pas facile dehors. Peut-être qu'ils n'ont pas aussi une très bonne situation dehors financière. Donc, ils doivent encore te mettre aussi dans les trucs. Donc, il y a certains moments, il y a des tensions qui arrivent. C'est certains détenus aussi qui ne veulent pas comprendre qu'il est ici en prison, mais que dehors aussi, la vie continue et que dehors, la vie, elle est plus chère qu'ici en prison. Des fois, ici en prison, on va dire... c'est pas pour dire, mais que t'aies de l'argent, que t'aies pas de l'argent, tu vas manger tous les jours. tu vas manger tous les jours. Ils vont te donner
dehors un petit les factures, ça n'arrête
dehors
pas.
Dehors les factures donc, des ouais. enfants, ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu, quoi.
Ouais. Samir, tu peux parler, parce que avant de commencer l'émission, on parlait, tu m'as raconté la petite anecdote de l'enveloppe, du cachet sur le timbre. J'aimerais bien que tu me développes ce sujet, par exemple, quand on essaie de cacher à ses enfants qu'on est en prison, parce que pas tous les parents, pas tous les papas veulent que leurs enfants sachent qu'ils sont en prison, et des fois, aux voisins, on essaie de cacher ça, ça provoque de la honte au niveau familial, ou tu peux me rappeler ce que tu me racontais avant ?
Oui, moi c'est plus par rapport quand je dis j'ai caché aux enfants, en fait. Je voulais uniquement que les enfants, moi, toute la famille est au courant, hein, mais mes enfants, non. Et ma femme aussi, elle n'était pas au courant qu'ils sont en prison. Personne n'était au courant. Donc moi, j'ai envoyé une lettre parce qu'il y avait les anniversaires et tout ça. J'ai dit, je ne suis pas là. Je me suis retrouvé dans une impasse. Donc j'ai commandé, il y avait encore des cartes, on pouvait des cartes de vœux. Donc j'ai commandé une carte de vœux, j'ai écrit bon anniversaire et tout. Papa, il est malade, il est à l'hôpital, je ne suis pas là, mais c'est un bon anniversaire. J'ai mis les anniversaires de tout le monde, comme ça, je n'oublie personne, j'ai plusieurs enfants. Et malheureusement, la lettre qui est arrivée, ils l'ont mis dans une carte, ils ont mis prison de Harel. Ça m'a cramé. Ça m'a cramé totalement. Mais ça a créé un vrai bordel. Hein, parce que,
oh purée.
Ouais, après, tout le monde l'a su, les écoles, le bazar. Oh. Ça fait téléphone arabe. Téléphone. Ouais, c'était un choc. Pour moi, franchement, ça m'a un peu déçu qu'ils étaient au courant déjà parce que. Faut pas oublier, moi j'ai un de mes enfants qui, à ce moment-là, avait 10 ans. Il était victime d'harcèlement au moment où je suis rentré. Quand ils ont su que j'étais en prison, donc moi je suis dans un quartier aussi, il se passe beaucoup de choses. Et voilà, il s'est fait influencer, il attendait, il ne laissait pas aller à l'école, il avait beaucoup de problèmes. Il s'est passé beaucoup de choses comme ça en fait qui m'ont affecté. Moi j'avais ma femme qui disait c'est ta faute. C'est ta faute. Moi, je comprends rien. Moi, je suis ici. Et voilà. Et le truc que j'avais caché, franchement, c'était un bon truc, l'hôpital et tout. Hein. Ouais, j'étais content de mon truc. Là. J'ai dit, ouais, ils m'ont cramé. Franchement.
Les amis, Serhat, par exemple, est-ce qu'on se sent coupable par rapport à la famille ?
Bah oui, moi, je culpabilise beaucoup. Hein. J'ai l'impression de les avoir abandonnés. Hein. Mais en fait, c'est pas juste en tombant en prison que j'ai l'impression de les avoir abandonnés. Hein. Personnellement, nous, on était une famille. On est une famille déchirée, et chacun dans son coin. Et la prison, ça nous a permis d'avoir pris. On a une certaine prise de conscience de
la valeur de la famille.
Oui, voilà, et de l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, et ça nous a permis de repartir sur un bon pied. En fait, mais en attendant, je culpabilise et tout le temps, et je remémore tout le temps perdu et toute l'énergie que j'ai donnée ailleurs, or que j'aurais dû les consacrer à ma famille. Mais voilà, mais moi et mes frères et ma mère, on le sait, quand je ressortirai, on sera tous ensemble, mes deux frères et ma mère, et pour le moment, ils sont ensemble, et ils attendent et plus que moi. Voilà, et quelque part, je peux dire, ma dernière incarcération, je peux dire que c'est une bénédiction, et tous les gens à qui j'ai donné du temps, de la valeur, ils m'ont tous poignardé dans le dos. Tous. Mais j'aimerais les remercier, et parce que ça m'a rapproché de ma famille, vraiment, et ça m'a rendu beaucoup plus fort. Je suis beaucoup plus fort qu'avant.
C'est juste ça. Ça s'appelle une prise de conscience, mon ami.
Et cette fois-ci, je le resterai. Voilà.
Ça s'appelle une prise de conscience.
Caucase, j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu... À cause de cette distance obligée, quand on est en prison de sa famille, ou surtout ici, je veux parler de son épouse, par exemple, est-ce que ça peut causer des séparations, des divorces ?
Oui, bien sûr. C'est beaucoup en plus. Ce n'est pas la matière, c'est beaucoup plus. Déjà, j'ai eu un problème que j'ai envoyé ici en Arène, s'éloigner de ma famille. Depuis que j'y arrivais, j'ai réclamé toujours pour être tout près de ma famille, pour être tout près de mon des enfants. Je veux dire la même vérité. Quand j'ai transféré Namur contre mon volonté, quand j'ai transféré des marches famines
à Namur contre mon volonté. J'ai été quelque part content parce que 2-3 kilomètres, c'est mon désenfant qui dormait et j'y aspirais bien, j'ai été bien. Maintenant, j'ai encore s'éloigné. Pour moi, c'est difficile. En tout cas, aujourd'hui, vous savez bien, tout devenu trop cher. Déplacement, ça vient trop cher, très difficile. Et commission Belgique, il y en a de règlements, que rapprochement familial et tout ça. Normalement, tout le monde, il doit être un peu pensé de ça et approché des familles pour pas être s'éloigner des enfants et des autres familiales pour être bien. Parce que les jours qui viendront, on doit sortir quand même. On ne doit pas sortir avec vraiment les morales psychologiquement cassées et détruites, quoi. Quand j'ai le problème ici en prison, quand tout ce qui est problème qui se passe ici en prison, et on prend les têtes avec gardien ou avec administration ou quelque chose qui n'avance pas, et j'ai juste un coup de fil et je parle avec mon fils, j'oublie tout. Bien sûr, c'est très important d'être tout près de notre famille.
Moi, personnellement, j'ai pas d'enfant. Ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que, enfin, je voulais toucher un petit mot aussi pour certaines personnes qui mettent la pression à leur famille, qui n'ont rien demandé, en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui, sans s'en rendre compte, pourrissent la vie de leurs proches juste en leur donnant un mauvais aura. Lui, ça va pas.
Les faire culpabiliser.
Ouais, voilà, en les faisant culpabiliser pour tout et n'importe quoi, alors que ces propres personnes-là ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font.
Qu'ils ont fait autour d'eux.
Qu'ils font autour d'eux.
Assumer,
ouais, voilà, quoi. Du coup.
Ils n'arrivent pas à assumer.
Je viens jeter seulement deux mots, Fawzi. Comme à tantôt, notre ami qui dit qu'il était peur que des enfants me le dévoilaient, que son père il est en prison. En fait, quand j'ai tombé en prison première fois et j'ai eu des visites après quelques mois de mon désenfant parce que c'était difficile à venir, j'ai joué avec de mieux de pain. Et ma fille, elle m'a dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici en prison? J'ai dit, je ne suis pas en prison, je suis en travail. Et à grâce de mon désenfant, j'ai devenu de grand artiste parce que quand elle m'a vu sur le Mac, j'y avais du pain. Et elle me disait, qu'est-ce que tu fais avec cette pain? J'ai dit, je travaille, j'ai fait des sculptures. Et j'ai tombé dans la mon parole dans une piège. Ma fille, elle m'a directement posé, papa, fais pour moi des fleurs. Et j'ai deux fils, il me dit, papa, fais-moi moto. Et l'autre, il dit, papa, fais-moi loup ou le ours. Les vases, j'ai fait après quelques semaines. Ma ours et ni moto, je n'arrivais pas seulement après un an. Et à grâce de ça, à grâce de cachet, voilà, j'ai devenu aujourd'hui des grands artistes que j'ai bien connus aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Tellement ça m'a donné, c'est pas gêné, mais ça m'a fait beaucoup penser pour pas casser le psychologiquement monde des enfants. Qu'est-ce que papa fait en prison? Et je savais pas qu'est-ce que j'ai répondre. J'ai eu des chances que j'ai joué avec de mieux de peine. Et toujours je pense de ça, comment je dois expliquer un jour des enfants pourquoi j'ai été là.
Ah, c'est le problème.
C'est pas facile, c'est Fawzi, pas facile. Tout ça pour dire, Fawzi, la famille, c'est la force. C'est ce qui te donne la force. C'est ton pilier, c'est ta force. C'est ce qui nous aide à tenir à n'importe quel moment. C'est vers eux que tu te retournes, qu'ils soient là ou pas. Donc, quand tu sais qu'ils sont là, ça te donne encore plus envie de surmonter n'importe quelle épreuve qui arrive. Et on se bat pour eux, quoi.
Très importante, la famille. Relka voulait rajouter quelque chose.
Bon, je t'ai dit personnellement, en écoutant tous les hommes ici présents parler de la famille, des responsabilités des enfants, force à vous les gars, parce que maintenant je viens de prendre conscience qu'un jour je suis resté en prison, quand j'étais en Espagne, un flash m'est arrivé dans la tête, j'ai dit, tiens, si j'avais un enfant à l'extérieur et que je suis ici à l'intérieur, ce jour-là mon souffle s'est arrêté, je me suis rendu compte que je ne peux pas vivre avec ça. Vous comprenez, est-ce que quand j'écoute des papas ici, au fait, vous ne croyez pas ce que moi je vois. Je vois une double peine parce que moi je sais ce que c'est que la famille, c'est
triple
sacré. Peine,
triple, c'est pas double, triple.
C'est sacré la famille et encore plus sacré, c'est ce qui vient de toi, ton enfant, ton sang, ta descendance. Bon, disons que pour moi, c'est je ne sais pas comment expliquer ça. C'est insupportable, je ne peux pas. Et j'ai pris cette décision. Tant que je serai en Europe, je ne vais pas donner l'opportunité de laisser qu'ils voient ma famille, même une fois dans les misérables vies, cette communauté, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais je tournais, je fais les tours. Moi, pour moi, on est riche dans ma famille, mais riche de terre, pas riche de savoir. Moi, je suis sorti pour la connaissance. Ouais. Et aujourd'hui, je connais, j'ai vu, j'ai appris. Bon, je tiens à vous dire, les gars, je vous comprends, et que moi, ma famille, ne va jamais voir cette situation. C'est ce que je demande à Dieu. Ni mon enfant, ni ma future femme, ni ma famille, ni mes proches, ni mes trucs. Parce que moi, je ne suis pas chez moi ici. Et puis, je peux me permettre. Et je ne dis pas ça pour dire que, ouais, nanani. J'ai vu aussi l'occasion de m'intégrer, de faire des enfants, de me marier. Mais j'ai vu plus loin, j'ai vu le futur. J'ai vu que si j'essaye...
Ouais. Continue.
Si j'essaye, je risque de me trouver dans les situations que je vois aujourd'hui. Et comme je ne peux pas supporter, parce que ce jour, j'ai eu une attaque, j'ai senti que si moi, je ne peux pas venir en aide la chair de ma chair, je pense que je préfère encore mourir que ça m'arrive.
C'est bien compris. Je pense que ce que tu dis, c'est ce qui ressent la plupart.
C'est pour ça que j'ai dit, je les comprends, il faut savoir.
Les amis, on va passer maintenant à un petit coup de gueule que j'ai préparé pour vous. Comme à chaque émission, on essaie de consacrer un petit 5-6 minutes. Un petit coup de gueule que je vais commencer à cet instant. Aujourd'hui, je prends la parole, pas pour faire du bruit, pas pour faire joli, mais pour dire la vérité. La vérité derrière les murs, la vérité sans maquillage, sans filtre, sans mensonge. Je parle de la santé en prison. Ici, tomber malade, ce n'est pas un accident, c'est une condamnation. Avoir mal aux dents, avoir mal au corps, avoir mal à l'âme, vous demandez à un médecin. Vous attendez 2 semaines, 2 mois, parfois 1 année, avec la douleur comme compagne, avec la peur comme voisine, avec la nuit comme témoin. Comme si souffrir faisait partie de la peine. Mais non, la prison enlève la liberté, pas la dignité, pas le droit de vivre. Je vais parler de moi-même, par exemple, pas pour me plaindre, pour témoigner. Mon cœur est fragile, mon cœur est marqué. 3 opérations, 2 stents et encore des crises cardiaques. Un combat permanent. Je vis avec une bombe à retardement dans la poitrine. Je suis sous protocole S2. Toutes les 30 minutes, un contrôle, une vérification, une protection, en théorie. En réalité, en pleine crise, j'appelle, j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quand ton cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. 3 heures entre la vie et le néant. Et quand je me plains, quand je crie, respectez le protocole, ma vie dépend de vous. On ne m'écoute pas, on ne m'accuse. Tu es agressif, tu es violent, tu poses problème. Alors que je demande juste le respect du règlement, alors que je défends mon droit à respirer demain. 3 fois, j'ai été sanctionné. 3 rapports disciplinaires mensongères. Mais votre version devant la direction n'est jamais crédible face à celle d'un agent. 3 rapports, pas parce que j'ai été violent ni agressif, mais pour avoir parlé, pour avoir résisté, pour ne pas m'être tué. Ici, réclamer ses droits, c'est risquer des coups. Pas des coups de poing, des coups de stylo, des coups administratifs. Des coups bureaucratiques, des coups silencieux. Alors beaucoup se taisent, ils ont peur, ils encaissent, ils souffrent en silence. Mon cas est bien connu et bien transmis à la direction, à la commission de plainte, à la commission de surveillance. Leur réaction tous, des courriels, les uns aux autres, pour que finalement l'info redescend à nouveau vers les agents, qui comme d'habitude ne font rien. Et quand ils font des rapports disciplinaires et rebelotent des plaintes et des plaintes. Et rien ne change. Et pendant ce même temps, pour le reste des détenus, les soins disparaissent. La kiné s'évapore. Les rendez-vous s'annulent. Les dossiers s'enterrent. Les corps se cassent. Les esprits fatiguent. Et les âmes s'usent. La prison fabrique des blessés à vie. Et après, on parle de réinsertion. Avec quels moyens? Avec quel corps? Avec quel cœur? Soyons honnêtes, la santé en prison est devenue un budget, une ligne à réduire, un problème à cacher. Mais derrière les chiffres, il y a des visages, il y a des vies, il y a des mères, des pères, des enfants qui attendent. Alors je parle à l'administration, au ministère, aux politiques. Ne faites pas semblant de ne rien savoir. Ne saignez pas de règles et de protocoles que vous ne respectez pas. Ne punissez pas ceux qui dénoncent. Au contraire, protégez-les. Parce qu'un détenu reste un humain. Parce qu'un détenu reste un citoyen. Parce qu'une peine ne doit jamais devenir une tombe. Nous ne demandons pas des privilèges. Nous demandons le respect, la justice, la vie. Nous sommes privés de liberté, certes, mais pas de dignité, pas d'humanité, pas d'avenir. En tant que derrière le mur, on laissera mourir en silence, c'est toute la société qui sera coupable. Merci. Et voilà. Une fois terminé le petit coup de gueule, je pense qu'on va commencer à conclure. Un petit mot de... Ouais, bien sûr, je te passe la parole.
Justement, tout ce qu'a dit les Fauzi, je voulais ajouter seulement de quelques mots. Depuis deux années passées, mois de mai, j'ai introduit le PS et congé. Jamais réagi les administrations. J'ai introduit il n'y a pas longtemps le TAP trois fois sur un mois. Jamais j'ai reçu accusation de répression. C'est tout à fait logique qu'il y a tout mis dans ton poème et tout ce que tu as écrit. C'est exactement comme ça, je suis d'accord.
Merci beaucoup. Serhat, un petit dernier mot.
Oui, moi j'ai une seule chose à dire, family first.
Exact. Aïe. Samir.
Moi, normalement, ça va, bientôt c'est le ramadan, pour ceux qui font le ramadan. Je leur souhaite un bon ramadan.
Bien vu.
Ça va être un peu compliqué. Ouais, le 18, Inch'Allah. Si tout se passe bien. J'espère que ça va aller. Courage à vous. À tout le monde, à tous ceux qui vont le faire, bien sûr. Dehors ou ici, c'est la même chose. Ne vous dites pas que je suis en prison, c'est difficile. C'est pas vrai. Ouais. C'est encore plus facile ici parce qu'on a moins de vis ici que l'extérieur.
Mario, courage à vous. Thibault,
Moi, j'allais juste un petit mot de la fin. C'est juste quelques propositions alternatives pour essayer un peu de, avant le mot de la fin, essayer de trouver un peu plus de convivialité ou plus qu'on puisse plus être en contact avec nos familles. Ça serait peut-être, par exemple, diminuer les coûts de téléphone, comprenez ? Diminuer aussi les coûts de la vie en prison parce que franchement, elle est exorbitante. À l'époque, moi, je me rappelle, la TVA, elle était exonérée. Par exemple, le tabac, on n'avait pas de TVA en prison quand tu achetais les tabacs. Mais aujourd'hui, c'est comme... franchement, c'est... Faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose. Ouais, Je vais trouver vraiment des solutions alternatives. C'est un message qu'on envoie aux dirigeants de ces instances, quoi.
Super. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. Merci à vous, les intervenants. Merci à tout le monde. À la prochaine émission, ça serait un autre sujet, un autre débat. Merci pour votre écoute et à la prochaine.
À la prochaine.
Une réalisation
de
Mario,
Lassis,
Ritz,
Michael,
Jeff,
Serhat,
Fauzi,
Samir,
Khelka,
Georgi à Caucase,
avec Ben et Despina.
Une production du Xara ASBL.
En partenariat,
avec
la FAMD,
avec le soutien,
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Radio. Audiovisuel.
Xara.